when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Common the Moon. Alexane, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat, bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux comme On The Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Mignot qui va nous parler de son parcours entrepreneurial. Elle a fondé Richmaker, Marketing Square, Refer. Toutes trois sont symboles de réseau, de networking, de growth marketing. Elle nous en parle beaucoup mieux que moi, alors je vous laisse écouter cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute.
C'est la passion. Si vous voulez vraiment être un bon networker, c'est bien de s'y mettre pendant un mois, c'est bien de faire un challenge. Mais en fait, le vrai challenge, c'est tenir sur la durée vos relations humaines en général. C'est quelque chose de commencer à créer, mais en fait, ça va s'entretenir. Il faut cultiver votre jardin. C'est qu'il faut le faire avec passion et avec authenticité. Sinon, vous n'allez pas tenir sur la durée. Et un réseau, c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail qui rapporte beaucoup, mais par contre, c'est un travail qui demande un effort en continu.
Hello Caroline, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours entrepreneurial et puis de ta manière de voir le réseau LinkedIn en tant que professionnelle. J'ai hâte de t'entendre nous donner tous ces conseils et puis nous parler de toi.
Salut Alexandre, t'as une tellement jolie voix, on dirait un show d'ASMR. Je suis super contente d'être ton invitée aujourd'hui et de parler de toutes ces choses qui nous passionnent en commun.
Exactement. Ah bah merci pour ma voix, ça me fait très très plaisir. Du coup, ma première question, tu m'as déstabilisée à me charmer dès le départ. Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Comment est-ce que tu t'es lancée ? Comment tu as eu envie de te mettre à ton compte ? Et qu'est-ce que tu as fait comme études ? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors, je vais essayer de faire ça de façon chronologique, même si, désolée, je vais vous spoiler, ce sera quand même décousu, même si je le fais dans l'ordre. En gros, moi, je grandis dans le 93 au Lila, et mon papa est journaliste, ma mère est directrice de crèche, et j'ai toujours rêvé d'être journaliste à ce moment-là. Au final, à la fin de mes études, je me dis, je vais plutôt être prof de français, sans transition, sauf que, à ce moment-là, il y a 2 ans de grève à la fac. Et que du coup, je ne sais pas trop quoi faire, donc je monte le bureau des étudiants, le BDE de l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Et je me dis, en fait, c'est hyper cool d'organiser des choses, de faire du média. C'est hyper cool de fédérer les gens. C'est hyper cool de manager un staff. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais j'aimerais vraiment bien en fait, faire de la communication, du média, du management, de l'événementiel. J'aime vraiment bien ce monde, tu vois, média marketing. Et du coup, à ce moment-là, je décide de me réorienter et de ne pas devenir prof de français, même si, tu vois, chasse le naturel et revient au galop. Je donne toujours un peu des cours, mais je me dis, en fait, je veux faire du marketing. Et du coup, j'arrive au CELSA pour devenir digital brand manager. Alors, j'arrive en stage de fin d'études à New York. J'y vais à reculons. Laisse tomber, j'avais pas du tout envie d'aller à New York. Moi, j'étais une Parisienne émerveillée par ma ville, avec mon groupe d'amis qui sont comme ma famille. Et du coup, à ce moment-là, je pars vraiment à reculons. Et j'arrive à New York et j'ai un coup de foudre pour la ville. C'est Paris en mieux. C'est Paris avec des gens qui sourient, avec des gens qui se mélangent, avec des gens qui ont tous la mentalité un peu entrepreneuriale, newcomer aussi. Parce qu'en fait, là où Paris peut avoir un esprit parfois un peu fermé, c'est parce que les gens sont nés là et ils ont leur habitude. En fait, à New York, tout le monde est nouveau. Et ça crée une émulation, une diversité et aussi une chaleur qui est dingue. Et j'arrive à New York et pendant 10 ans, je fais du coup du gross marketing. Donc, le gross en France, on a tendance à réduire ça à de l'automatisation. En fait, le gross aux États-Unis, le gross marketing, c'est une méthode d'application marketing. Pour vous donner une image très simple, en France, la façon dont on fait du marketing, c'est des médecins spécialistes. Chacun traite un sujet et chacun fait en sorte que ce soit le mieux dans son secteur. Donc, il y a des gens qui font de la presse, qui vont s'occuper que de la presse. Il y a des gens qui font du produit, ils vont s'occuper que du produit. Le gross marketing, en fait, c'est des gens qui sont généralistes, qui vont analyser tout le cycle de vie de votre client pour voir là où vous perdez de l'argent et là où vous pourriez en gagner plus. Et du coup, ils vont appuyer et mettre leur effort sur des leviers particuliers. Donc, ils vont faire un peu de presse s'il y a besoin, ils vont te faire un peu de social community building s'il y a besoin. Donc c'est un peu le médecin généraliste, le gross marketing, là où le marketing est le médecin spécialiste. Voilà.
Ok. Et donc aux États-Unis, la différence c'est quoi par rapport à la France ?
La différence c'est vraiment déjà, moi je trouve la diversité, parce que du coup c'est vrai que tout le monde vient de partout. Là où à Paris, et moi la première, hein, on a potentiellement grandi dans cette ville. Donc en fait, les gens se rencontrent plus trop. Et puis, tu as autour de toi des gens qui te ressemblent. Les gens qui étaient avec toi, tu vois, un peu ton environnement social démographique. C'est-à-dire des gens qui ont des parents qui ont fait à peu près la même chose que tes parents. Tu as grandi dans les mêmes villes. Donc quelque part, tu vois, finalement, on est un peu plus dans un moule. Là où à New York, c'est plein de gens qui ont été jetés là par hasard. Des boursiers, des gens qui ont obtenu un stage en faisant un prêt, des gens qui ont été poussés là et cooptés par leurs parents. Mais en fait, comme tout le monde est nouveau, tout le monde se mélange, tout le monde est heureux d'être ensemble. Et comme tout le monde est en train de se réinventer et repart de zéro, quelque part, ça donne un truc un peu magique et un peu fou.
Je suis jamais allée à New York, mais je vois exactement de quoi tu veux parler. C'est un peu cette même émulsion quand on crée sa boîte, tout simplement, en fait, se dire allez, je vais me lancer et puis je vais tenter et on verra ce que ça donne et je vais rencontrer plein de gens, etc. J'ai l'impression que la France a eu un petit train de retard par rapport aux États-Unis sur ça et puis maintenant on est en train de se développer là-dessus. Peut-être que le confinement a aidé, j'en sais rien. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la suite après ces 10 ans aux États-Unis? Qu'est-ce qui qui s'est passé dans ta vie?
Alors, ma dernière expérience, donc j'ai passé 8 ans aux US, un tout petit peu moins même, quand je refais vraiment le calcul. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris une peau de banane, une grosse embûche sur mon chemin. La dernière expérience que j'ai faite, c'est que j'ai lancé une marque de bijoux. Et cette marque de bijoux, on a fait un partenariat avec une autre marque. Et cette autre marque m'a débauchée. C'est une superbe marque qui s'appelle Saint-James, dont moi, je suis ultra fan. Une belle marque made in France, des polos avec des rayures, vous avez peut-être vu passer. Et du coup, c'est vraiment une jolie marque. Et à ce moment-là, ils me débauchent pour relancer toute leur filiale US. Okay. Donc, job de rêve, marque que j'adore. Le CEO incroyable et en fait je quitte tout pour ce poste et les investisseurs changent d'avis pendant les démarches de visa. Donc je me retrouve quelques mois avant le Covid sur le carreau en France du jour au lendemain et là en fait c'est la fameuse embûche, vous savez, la tuile que vous n'avez pas senti venir. Et c'est aussi l'ascenseur émotionnel parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais une aussi belle opportunité. Et c'est le fameux moment, je ne sais pas si ça a fait écho chez vous, quand vous vous dites « mais c'est trop beau pour être vrai ». Et bien, parfois, souvent, on vous dit « mais arrête, saisis ta chance, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est là ». Et parfois, en fait, c'est vraiment trop beau pour être vrai. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout est parti en fumée du jour au lendemain. Et je me suis retrouvée en France. Là, j'ai pris un CDI très, très vite pour pouvoir rebondir parce que je ne veux pas te cacher que je l'ai très, très mal vécu. J'ai perdu toute ma vie d'un coup, en fait. Je n'ai pas pu retourner aux États-Unis. J'ai rapatrié toutes mes affaires. J'avais mon copain qui était là-bas. On s'est séparés. Enfin, c'est le drame que vous pouvez imaginer. Et puis, la blessure d'ego de revenir en France et de s'être fait un peu… finalement, c'est comme se faire virer. Hein. C'est virer avant même d'avoir commencé, comme m'ont dit mes potes. C'est un drôle de sentiment et ça rend pas fier de soi alors qu'on y est pour rien, mais voilà. Et là je me suis dit, je vais prendre le premier CDI que je trouve pour remonter la pente. Je me suis retrouvée dire comme dans le transport routier.
Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de mauvais métier. Peut-être que ce secteur-là ne te plaisait pas au premier abord, et c'est sûr que par rapport à celui que tu visais à la base, c'était pas du tout pareil. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre ce travail?
Alors déjà, je confirme pour ceux qui nous écoutent, ce qui est amusant, c'est que bien sûr, il n'y a pas de sous-métier. Et moi, justement, le transport routier, la supply chain, c'est des univers que je trouve très sexy. Mm-hmm. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est à l'opposé de mon parcours.
Oui,
c'est-à-dire que
complètement.
Moi, j'étais très marketeuse. Donc moi, je venais du gross marketing. Donc on traque tout ce qu'on fait. Datavore, ça veut dire on regarde tous nos chiffres, on est en train d'optimiser en permanence. Donc, je deviens directrice communication donc sur des métiers d'image, des choses qui ne se mesurent pas. Et en plus, dans le transport routier, alors que je venais des bijoux. Donc, c'est ça qui est vraiment what the fuck et qui m'a fait beaucoup rire. Maintenant, c'est un poste qui m'a permis de rebondir. C'est un poste où j'ai choisi de rejoindre. En fait, j'ai fait un choix à l'affect. Alexane, alors tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, mais à ce moment-là, j'étais tellement brisée que j'ai eu un coup de foot pour ma manager qui m'a mis en confiance, qui m'a inspirée. Et du coup, même si c'était un poste qui ne me ressemblait pas trop, c'est celui que j'ai choisi. Et pendant un an, du coup, j'ai fait ça. Il se trouve que le moment de grâce que j'ai eu dans mon poste, c'est que je savais très bien faire des partenariats. J'étais spécialisée en partenariat depuis 10 ans. Et au moment où je suis en train d'étouffer dans ce poste qui ne me correspond pas trop, qui est serré comme une chemise que tu avais avant de faire 3 grossesses, tu vois. À ce moment-là, je me sens mal dans ma peau, je ne me sens pas à ma place, je me sens même comme un imposteur. Et ce qui me permet de sortir la tête de l'eau, c'est le partenariat. Parce que du coup, je crée un partenariat et ça fait que tout d'un coup, je parle aux autres équipes, alors que souvent, la com, les communicants d'ailleurs en souffrent. On est un peu à part quand on fait de la communication. C'est un peu, en fait, on nous envoie un produit fini et nous, on est censé relayer. C'est souvent la souffrance de ce métier. Et à ce moment-là, au moment où je fais du partenariat, tout le monde vient me parler. Et surtout, j'ai un impact concret et chiffré. Et je construis des choses. Et là, je me dis, en fait, c'est un savoir-faire qui est très, très rare en France. Je me rends compte qu'il n'y a pas de documentation sur le sujet. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'outils. Autant il y a plein d'outils pour faire de la prospection, autant il n'y a aucun outil pour faire de la prospection de partenaires. Et un partenaire égale des centaines, des milliers de clients potentiels. Donc, je me dis, il y a une aberration de marché. Et je me dis, j'y vais, je me lance. J'ai peur, mais j'y vais.
Donc là, c'était en quelle année à peu près?
Ça, c'était du coup juillet 2020. Juillet 2020, ça fait presque un an que je suis en poste. J'ai rejoint mon poste du coup en octobre 2019. Et juillet 2020, je mets une annonce sur LinkedIn et je dis « je voudrais lancer une plateforme pour faire des partenariats ». Ça cartonne aux États-Unis, en France ça n'existe pas. Alors c'est peut-être un peu fou, mais je pense qu'il faut le faire. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi ? Je cherche un directeur technique et je rencontre mon CTO qui bossait dans la même boîte que moi. Et, okay. Et ensemble, on lance Reachmaker. Du coup, j'ai continué. J'avais déjà commencé depuis 3 mois, du coup, à monter le projet un peu toute seule, à créer de l'émulation sur les réseaux sociaux, tout ça, mais je n'avais pas commencé le produit. Et du coup, j'ai fait 6 mois, en fait, de Reachmaker la nuit. Et mon boulot, mon job en CDI avec 4 ou 5 personnes à manager, je ne sais plus, la journée. Donc, c'était intense. Quand j'ai rencontré Anto, du coup, mon cofondateur en juillet, là, je respire, je me dis, ça va sortir, ça va devenir vraiment quelque chose. Et en novembre, je démissionne, donc novembre 2020, on lance le MVP, pour ceux qui nous écoutent, c'est le Minimum Viable Product, ça veut dire le produit minimum que vous pouvez lancer pour tester si votre offre va marcher ou pas. Et du coup, je passe à temps plein sur le projet. Donc, il a maintenant presque 2 ans, il a 1 an et demi.
Ok, donc Reachmaker, c'est vraiment la plateforme pour te mettre en contact et trouver des partenariats. Peu importe finalement le secteur d'activité, peu importe l'entreprise, comment ça se compose en fait concrètement ? C'est un site, c'est une plateforme, j'imagine. Donc Anto, il a fondé la plateforme, s'il est directeur technique, comment ça s'est passé ?
Il faut que tu imagines que c'est comme un site de rencontre et qu'aujourd'hui, dans le partenariat, on a exactement les mêmes problématiques que dans les rencontres humaines en général, le dating, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que on a tous quelque chose à apporter, on sait ce qu'on veut, mais on a un problème sur la rencontre. On a un problème pour ne pas se laisser avoir par nos affects. Et du coup, ma plateforme de partenariat reprend les codes du dating. En fait, on a un algorithme qui va dire à n'importe quelle boîte qu'est-ce que tu fais. Donc toi, tu vas dire par exemple, j'ai un podcast. J'ai ce podcast. Ce podcast, il a telle audience. Je cherche quoi ? Je cherche peut-être des invités. Parce que je me rends compte que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps de contacter les gens un à un, de me prendre des portes, de tomber dans des boîtes email où il y a déjà plein de trucs et les gens ne veulent pas forcément en plus être invités à ton podcast. Donc, les invités, c'est une galère pour les podcasteurs, sauf les mégastars. Mais pour tous les autres, en tout cas, moi, j'en ai bavé, je ne sais pas toi, mais il y a plein de gens qui ne répondent pas. Donc, tu peux trouver, par exemple, des invités. Tu peux être en train de chercher un sponsor et de te dire j'ai envie de monétiser mon podcast. Donc sur Reachmaker, tu peux aussi trouver un sponsor pour ton podcast. Et puis troisième scénario, tu pourrais te dire j'ai envie de faire de la cross promotion avec un autre podcasteur, parce que aujourd'hui typiquement, ou même une newsletter, aujourd'hui typiquement ce que le partenariat te permet de faire, c'est de toucher toutes les marques et les créateurs qui sont en lien avec ton client quand il n'est pas avec toi. Et en fait, ça, c'est surpuissant. Et c'est le hack de la collaboration, c'est que ça te permet de grandir, mais vraiment 2 fois plus vite. C'est à partir du moment où tu vas capter les audiences qui sont déjà constituées chez les autres, il y a un transfert de preuves sociales qui est surpuissant. Les gens vont te faire confiance, les gens vont arriver chez toi en ayant déjà une idée de qui tu es. Et du coup, c'est un peu de la prospection chaude. Et moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, la prospection chaude, c'est beaucoup plus efficace que la prospection froide et qu'il faut s'en occuper.
Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un bon moyen aussi d'oser peut-être plus facilement, tu vois, contacter quand tu passes via une plateforme qui est faite pour ça, de contacter les gens, parce que c'est souvent ça aussi le blocage, j'ai l'impression de se dire non, je ne veux pas le contacter, notamment dans le podcast, parce que il est trop connu, il ne voudra jamais venir dans mon podcast. Enfin, moi, ça a été un peu mon cas quand je t'ai contacté, et d'ailleurs j'ai été très surprise que tu me dises oui, et tu m'as même dit justement ce que tu nous disais tout à l'heure, je me suis pris trop de refus au début quand j'ai commencé, donc maintenant je refuse plus aucun podcast, et j'ai trouvé ça génial, enfin hyper généreux, mais il n'y a pas tout le monde qui fait ça, et donc du coup voilà, j'en profite pour te remercier à nouveau de venir dans ce podcast, mais clairement je pense que c'est parfois le fait d'avoir un biais qui est fait pour ça, pour nous aider à justement trouver des partenariats pour peu importe le type de sujet, ça peut vraiment finalement débloquer certaines barrières.
Tu as tout dit, en fait, c'est la fameuse question du consentement aussi. Et c'est ça qui est fort, c'est pour ça que je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ait une marketplace pour faire justement du partenariat. C'est que tu vois, le problème sur LinkedIn, c'est que tu vas contacter des marques, mais Tu n'es même pas sûr qu'elles fassent du partenariat, tu ne sais pas vraiment ce qui les intéresse. Et l'idée de Richmaker, c'est-à-dire les marques, elles s'inscrivent en disant « je viens et je veux être contactée pour ça et seulement pour ça ». Et du coup, ça fait que tu te prends beaucoup moins de râteaux, tu perds beaucoup moins de temps, tout le monde est content et on réduit les échanges.
Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, j'avais une question quand même qui me taraude un petit peu, c'est pourquoi Richmaker ? Pourquoi ce nom ?
Alors, à l'époque, c'est marrant, tu sais qu'on m'a pratiquement jamais posé cette question. Et je suis complètement une fana de naming. Genre, si je t'expliquais pourquoi mon podcast s'appelle Marketing Square, tu te dirais, mais elle est folle celle-là. Elle a vraiment genre beaucoup trop intellectualisé le truc. Sur Richmaker, en fait.
Mais on veut que tu nous expliques du coup.
Ouais, sur Richmaker, c'est plus simple pour le coup. Au début, Richmaker s'appelait Partnership Studio. Et l'idée, c'était de dire, en fait, Richmaker, c'est pas seulement un site de rencontre. Richmaker, c'est un endroit où vous allez pouvoir faire partenariat pour pouvoir doper votre croissance. C'est ça qu'on permet de faire. C'est pas juste rencontrer un partenaire stratégique. C'est on va vous tenir par la main pour vous expliquer comment faire un partenariat qui fonctionne. Pas le partenariat éclaté au sol de genre j'ai croisé un tel à la machine à café et on s'est dit qu'on pourrait faire un truc ensemble. Tu fais un petit coup de queen, un jeu concours et basta et ciao bye. Tu vois, le partenariat c'est pas ça. Le partenariat c'est des grosses OP qui te permettent d'automatiser ta croissance. Donc aujourd'hui sur Richmaker, l'idée, c'est de permettre aux marques de donner leur visibilité et leur impact. Et c'est ça que ça veut dire « rich maker ». Déjà, il y a le mot « make » que j'adore parce que nous, on est une communauté de faiseurs. C'est que des gens qui s'activent. Et derrière le « rich », c'est pouvoir avoir davantage de portée, pouvoir aller plus loin. Et il y a eu un mantra que j'adore, c'est « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et je trouve que ça va très, très bien à mon produit et même à ma personnalité.
Je trouve aussi que ça te correspond très très bien. Et du coup, Marketing Square, alors pourquoi ? Et on parlera bien sûr de ton podcast juste après.
Alors, Marketing Square, en fait, tout le monde pense que c'est un nom trouvé un peu au hasard, mais en fait, je me suis tellement pris la tête. En fait, le square de Marketing Square, il veut dire trois choses. La première chose, c'est le Marketing Square, c'est la puissance de la collaboration. C'est ensemble, on est plus fort. Et en fait, c'est la puissance au carré. Et c'est ça que ça veut dire square. Ça, personne ne le sait parce qu'au début, quand j'ai essayé d'écrire mon nom, je mettais justement marketing au carré et personne ne comprenait. Mais de base, moi, je parlais de collaboration. Et tout mon podcast, c'est je collabore avec mes invités, je collabore avec mes audiences. C'est un podcast participatif. Donc, Marketing Square, première chose, c'est du coup la puissance au carré, la puissance décuplée. Le square, c'est aussi la méthode. C'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas d'idée et si tu n'exécutes pas avec beaucoup de discipline, tu vas voir que tu ne vas pas avoir de résultat. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est des méthodes pour passer à l'action. Donc finalement, moi, je donne un cadre. C'est l'espace, en fait. C'est le fameux « on est carré ». C'est une méthodologie qu'il faut appliquer un peu à la lettre. Et ça va aussi avec ma personnalité. C'est mon côté très rigoureux. Et donc, du coup, la troisième chose, c'est que le square, c'est aussi l'endroit où on s'amuse, c'est la récréation. Et moi, mon podcast, je veux que ce soit un espace de liberté d'expression, un espace où les gens sont eux-mêmes, un espace où les gens s'amusent avant tout, et un vrai espace de générosité. Et du coup, voilà, Marketing Square, c'est aussi le square, la cour de récré. Et tout ça, du coup, ça donne ce nom. Mais tu vois, derrière le carré, je mets toute cette sémantique.
C'est marrant parce que tu vois, quand je l'écoutais, quand je l'écoute et quand je lis le nom, j'ai tout de suite pensé à la troisième version. J'ai pas pensé forcément aux autres, donc je suis très contente que tu en parles dans ce podcast parce que apparemment on est privilégié de savoir ce que signifie Marketing Square, donc très très cool. Et donc dans la suite de ton parcours, parce qu'avant de lancer ton podcast, donc il s'est passé quand même plein de choses. Tu as lancé donc Richmaker, et qu'est-ce qui s'est passé après ce lancement du coup, parce qu'on était sur la chronologie.
Du coup, je lance Richmaker. On sort la première version du produit en novembre. Là, en fait, on fait un produit, on voulait faire du freemium, donc on voulait que ce soit gratuit, pour tout le monde de se référencer. Et en fait, Alexandre, pire idée de la Terre. Hyper cool, on a plein de succès, mais par comptre, ça dépend dans tous les sens. Ça crée des comptes en doublon parce que j'ai perdu mon mot de passe. Il y a des gens qui abusent et qui envoient des messages de prospection à des partenaires. Tu vois, toujours ceux qui sont sur le fil. Tu vois les gens, même dans la vraie vie, qui sont toujours border. Tu sais, tu leur donnes ça, ils te prennent, tu leur donnes un doigt, ils te prennent le bras. Bah, C'est ce qui s'est passé sur Richmaker. Donc, je recevais des messages de mecs qui disaient « Non, mais moi, je propose une offre promotionnelle spéciale pour nos partenaires. » Du coup, tu sais, c'est comme sur LinkedIn. Les marques de la plateforme, elles recevaient pas parce que je les bloquais à la main. Mais du coup, moi, je voyais passer des trucs du genre « Exceptionnellement, profiter d'un rabais de moins 20% de formation. » J'étais là, ok, ça, c'est pas du partenariat. Donc, à ce moment-là, je crée un énorme problème. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques. Et en fait, le modèle gratuit ne nous convenait pas. Donc, on s'est dit, en fait, on peut pas. Il faut pas qu'on soit Tinder. Il faut qu'on soit un mythique et qu'on propose des rencontres qui ont du sens pour faire des vrais, beaux partenariats. Et du coup, on a décidé en février, février 2021, on a monétisé et on a tout de suite été rentable sur Richmaker. Et depuis, ça continue de grossir. Après, entre-temps, j'ai vraiment adoré rejoindre le réseau social Clubhouse. Et sur Clubhouse, si vous ne connaissez pas, c'est un réseau qui est 100% basé sur l'audio, dans lequel on fait des rooms, donc comme des webinars audio. Et j'ai adoré. Et en fait, on a stoppé Clubhouse le temps d'un été, donc le temps d'un mois et demi. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore la voix. J'ai fait un podcast nul que personne n'écoute, que j'ai jamais diffusé. Pourquoi est-ce que je ne me ferais pas vraiment confiance? Et j'essaierai de faire un podcast, mais bien. J'y mets vraiment de l'effort et j'y mets de la méthode et de la persévérance. Et du coup, j'ai lancé Marketing Square en septembre dernier. Et maintenant, c'est, on va dire, un tiers de mon activité.
Ah oui, carrément. Un tiers de son activité. Ok.
Maintenant, j'ai un
podcast, tu as réussi à le... Ok, tu l'as monétisé, etc. Tu dis que tu as un sponsor. Comment ça s'est passé?
Alors, du coup, je l'ai lancé en septembre. En novembre, donc 2 mois plus tard, j'ai eu une croissance fulgurante de 14 000%. C'est facile quand on part. J'avais vraiment 200 écoutes hein, sur mon ancien podcast. Donc, voilà, mais j'ai une courbe assez dingue que j'avais partagée sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était un peu du jamais vu dans l'histoire du podcast. J'ai vraiment envoyé beaucoup d'un coup. Je pense que c'était toute ma frustration d'avoir eu autant d'échecs. Et du coup, le podcast a eu une très, très belle croissance. Et je pense que, tu sais, Apple Podcast, c'est à la main. En fait, c'est des vrais humains qui vont écouter les podcasts et faire des sélections. Et je pense qu'ils ont dû, tomber sur… J'étais très bien classée, du coup, par l'algo. Et ça fait partie des épisodes que je documente justement. J'avais essayé de craquer le truc de comment plaire à l'algorithme Apple Podcast pour qu'il te mette en avant même si tu n'étais personne. Et du coup, en fait, je me retrouve en novembre, coup de cœur Apple Podcast de l'année. Donc là, j'ai cru que c'était un scam, laisse tomber. Quand j'ai reçu l'email, je me suis dit, c'est une blague. J'ai regardé la structure du mail pour être sûr que c'était quelqu'un de chez Apple et je n'y croyais pas. Et au mois de janvier, je me dis, et si j'essayais de le monétiser? Et au mois de janvier, je signe mon premier sponsor qui était Iconosquare. Et depuis, le podcast est sponsorisé. Donc maintenant, c'est devenu une vraie boîte avec un monteur à plein.
Ok, trop bien. Et justement, c'était hier, donc quand on enregistre ce podcast, on est le 19 mai. Et hier, tu as mis une story en disant que tu étais justement encore dans le top 1. Bah, tu étais le premier podcast écouté dans ta catégorie sur Apple Podcast. Et j'écoutais un podcast qui disait qu'en fait, sur Spotify aussi, il y a des vraies personnes. Donc, on peut aussi regarder les classements des podcasts sur Spotify. Et si ça se trouve, tu fais aussi partie des meilleurs classements sur Spotify. Donc moi, en tout cas, je l'écoute sur Spotify. Donc tu as des écoutes sur Spotify aussi.
Ah, c'est trop gentil, merci. T'as vu que maintenant Spotify se bouge enfin. On peut même noter les podcasts et mettre des étoiles. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, les classements, c'est pas des vraies personnes, mais ce qui est géré par des vraies personnes, des humains, c'est en fait la partie curation où ils créent des playlists. Et les playlists, ça va être le coup de cœur de la rentrée, ça va être 15 podcasts qui font peur ou 12 podcasts pour les enfants. Et ça, par contre, c'est 100% des humains qui s'occupent, en fait, c'est des editorial managers qui gèrent cette partie-là. Sur la partie classement, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai appris, Alexandre, c'est 100% algorithmique.
Ok.
Il me semble.
a priori, je pense que je te rejoins, je ne suis pas assez calée sur le sujet pour confirmer, mais en tout cas, c'est cool que Spotify ait enfin mis les étoiles. On attend maintenant les commentaires, ce serait encore plus cool. Mais c'est vrai que ça manquait vraiment d'une autre plateforme où on pouvait recevoir des notations, parce que moi, je sais que je suis pro Apple, entre guillemets, mais j'écoute tous mes podcasts sur Spotify. Et donc, ça me manquait de pouvoir les noter et c'est cool de pouvoir laisser... une étoile, ça te prend quoi? 2 secondes, t'as fini ton épisode, t'écoutes l'épisode et la personne te dit « Oubliez pas de me noter, ça me fera super plaisir. » Et du coup, t'as juste à le faire, quoi. Donc vraiment, sachez-le, ça propulse vraiment les podcasts, ça aide les podcasteurs à être plus visibles. Donc, aidez-nous à rendre plus visibles nos podcasts. Et donc, du coup, en parallèle de Marketing Square, en parallèle de Richmaker, tu as aussi rejoint Refer, si je le prononce bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de cette étape de ta vie?
Exact. Alors déjà, pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller laisser une gentille review à Alexane ou 5 étoiles sur Spotify. Et je le ferai moi-même avec grand plaisir. Pour continuer sur FR, en fait, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous qui nous écoutez ou à toi, Alexane, des moments dans ta vie où tu dis, en fait, si je ne le fais pas, je vais trop m'en vouloir, mais tu sais que c'est un peu fou de le faire.
Ça m'est déjà arrivé et je l'ai fait et je n'ai pas du tout regretté.
Ah, trop bien. Eh ben, parce que c'est le choix que j'ai fait. Alors, je n'ai pas beaucoup de recul parce qu'en novembre dernier, j'ai décidé de rejoindre un projet qui m'a fait battre le cœur comme si c'était mon propre projet. Imaginez-moi, j'ai toujours dit, c'est possible d'aimer les enfants des autres autant. Eh ben, je pense pareil dans l'entrepreneuriat. En fait, il y a un projet de boîte qui m'a tellement plu. C'est comme si c'est moi qui l'avais créé. Et tout de suite, j'ai senti que c'était une vision qui me parlait, que j'ai complètement embrassée. Ça ressemble vraiment à ce que je fais chez Richmaker. Donc, en fait, à ce moment-là, je me rends compte que nos deux boîtes ne peuvent pas faire des partenariats. C'est pas exactement, on n'adresse pas la même audience, on n'a pas le même problème. Ces deux boîtes qui ont des hygiènes différentes, par contre, c'est la même vision. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, en fait, même si c'est un peu fou, je ne peux pas refuser, je ne peux pas passer à côté d'une opportunité pareille de cofonder avec Arnaud Gazel aussi, Refer, qui est une application qui permet en fait de faire des mises en relation. Et moi, je suis malade de réseau. Toute la vision de Refer, c'est de dire aujourd'hui, les rencontres, elles changent nos vies, elles changent le cours de l'histoire, elles façonnent le progrès, elles nous permettent d'être plus forts. Et ce que je dis tout le temps sur Richmaker, c'est les espèces dans le vivant qui sont les plus fortes, les plus pérennes, ce n'est pas celles qui sont les plus fortes génétiquement, c'est celles qui collaborent le plus. Le secret de la robustesse, c'est la collaboration. Et moi, je veux appliquer ça au monde du business et je l'ai fait. Je le fais sur moi, dans toutes les facettes de mon activité et ça fonctionne. Et je veux le mettre à la disposition de toutes ces petites boîtes, de tout ce nouveau marché qui est en train de naître, les indépendants, les podcasteurs, l'économie de la création. Moi, je veux créer l'économie de la connexion et je veux que les gens ils puissent plus facilement partager des choses ensemble et créer des alliances. Et du coup, tu vois, Refer et Richmaker, c'est la même vision. À partir de novembre. En novembre, on a commencé à se dire « Ok, on va faire des choses ensemble. » Et officiellement, en février, je suis passée cofondatrice.
Ok, c'est super. Enfin, moi, j'ai vu tout ça du coup sur les réseaux. Je t'ai connue donc sur LinkedIn, etc. Non, je ne t'ai pas connue sur LinkedIn. Je t'ai connue au Connection Days à Orléans, justement, l'année dernière. Et je t'ai ajoutée tout de suite sur LinkedIn et je t'ai fait un petit message. Et quand je suis revenue te parler pour le podcast, je me suis dit « Waouh, je l'avais contactée il y a quasiment un an pour ça, par rapport au Connection Days. » Donc, comme quoi, il y a plein de types de choses sur lesquelles on peut connecter et pas seulement, en distanciel, mais ça nous a bien aidé d'avoir ces réseaux-là justement pendant le confinement. Et c'était les premiers événements après les nombreux confinements qu'on a eus. Et donc, du coup, pour revenir à nos moutons, je suis partie un peu trop loin, Refer, Richmaker, Marketing Square, et donc tout ça, en fait, c'est le lien avec le réseau. Et donc, moi, je voulais vraiment mettre ça en avant dans cet épisode d'aujourd'hui avec toi et que tu nous donne un peu des conseils pour se lancer dans le réseau si on n'ose pas trop faire un petit message sur LinkedIn, si on n'ose pas trop être présent sur les réseaux, si on n'aime pas trop se montrer, si on n'est pas à l'aise avec cette notion de storytelling, est-ce que tu aurais pour nous 3 conseils pour se lancer à faire son réseau? Bien sûr, il y a rejoindre Ismaker, il y a rejoindre aussi Refer qui vraiment permet de mettre en lien avec le réseau. Moi, j'ai téléchargé l'application, j'ai préparé mes petits messages, mais je n'ai pas encore appuyé sur la touche envoyer. Donc, ça aide grandement, a priori. J'ai vu qu'on pouvait vraiment inviter tout son réseau, et même plus, même au-delà, et faire des messages vraiment personnalisés. Donc, c'est vraiment très cool. Tu pourras nous expliquer même un peu plus en détail le concept, mais est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour ceux qui n'osent pas se lancer sur les réseaux et networker?
Alors, les 3 meilleurs conseils pour networker, le premier, c'est vraiment, il faut une bonne dose d'humilité. Ça commence par ça, une bonne relation aux autres. Ça commence par accepter son imperfection dans toutes les phases de notre vie. Et du coup, je dirais la première chose pour networker, du coup, c'est comprendre ses imperfections, les accepter et apprendre en faisant. Du coup, vous n'allez pas être parfait. Peut-être que votre premier post LinkedIn, c'est un pas vers les autres aussi, un post LinkedIn. Premier post LinkedIn, il ne va pas être terrible. Peut-être que votre première poignée de main, elle va être un petit peu transpirante. On ne vous en voudra jamais d'avoir essayé. Pensez à ce mantra, il met hyper à l'aise et c'est la vérité. Apprendre en faisant, pour moi, c'est le conseil numéro 1. Et c'est mettre de l'humilité dans ce qu'on fait et se dire, ok, je débute et je suis ok avec le fait de débuter. Mieux vaut fait que pas fait. Je commence et c'est le plus important. Conseil numéro 1. Conseil numéro 2 pour moi, c'est la générosité. Et il y a un truc qui façonne un petit peu tout ce que j'ai construit sur FR, notre manifesto, c'est commencer par donner. Et j'ai souvent, tu sais, il y a cette expression qui dit le give back ou payback, c'est donner en retour ou redonner la monnaie de sa pièce, tu vois, de redonner à quelqu'un, redonner ce qu'on a reçu. Et ben moi, je dis toujours give forward ou pay forward. C'est commence par donner ou paye en avance. En fait, je suis persuadée que ceux qui font le pas, le extra mile, comme on dit en anglais, qui font cet effort, en fait, de se dire, tu sais quoi, c'est pas grave, moi, je suis un giver. J'ai confiance en l'humanité. Je pense vraiment que la gentillesse, c'est un truc qui nous transporte tous et va rendre le monde meilleur. L'effet papillon. Commencez par donner. Commencez par envoyer une recommandation. Vous avez un collègue qui a un peu changé votre vie. Vous pensez que vous ne l'avez pas assez remercié. Envoyez-lui une reco comme ça, en pleine journée, sans rien attendre en retour. Et ça, pour moi, c'est la base du networking, Alexandre. Je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi, mais un truc qui nous fait souffrir dans les relations qu'on a aux autres, c'est que souvent, les autres, ils viennent nous parler par intérêt.
Ouais, je suis
et tu sais, il peut y avoir ces...
On devrait le faire plus souvent.
En fait, si vous vous autorisez à donner, à être très généreux, le jour où vous allez avoir quelque chose à demander, un service, on ne pourra jamais vous dire « Ah mais non, moi dans cette relation, je ne me sens pas bien. » Parce qu'en fait, Caroline, dès qu'elle vient me voir, c'est qu'elle a un service à me demander. En fait, si vous êtes quelqu'un généreux, si vous offrez, avant de recevoir, et pas attention, hein, faites pas en mode le premier message, c'est un message sympa, comment tu vas, et juste après, vous demandez un service. Non, c'est vraiment sans rien attendre en retour, vous semez des petites graines, il faut que ça vous fasse plaisir, il faut que vous vous disiez, ok, cette générosité-là, c'est des petites graines que je mets pour être plus heureux dans ma vie parce que je suis un giver, et vous allez voir à quel point ça va être vertueux, rendre les autres meilleurs et faire en sorte que les autres, ils soient toujours là pour vous, et c'est comme ça qu'on crée un réseau. Donc, deuxième conseil, c'est vraiment du coup le give forward ou pay forward, c'est donner en avance. Et le troisième conseil, c'est la passion. Si vous voulez vraiment être un bon networker, c'est bien de s'y mettre pendant un mois, c'est bien de faire un challenge. Mais en fait, le vrai challenge, c'est tenir sur la durée vos relations humaines en général. C'est quelque chose de commencer à créer, mais en fait, ça va s'entretenir. Il faut cultiver votre jardin. Donc ça, c'est mon troisième conseil, c'est qu'il faut le faire avec passion et avec authenticité. Sinon, vous n'allez pas tenir sur la durée. Et un réseau, c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail qui rapporte beaucoup, mais par contre, c'est un travail qui demande un effort en continu.
Je suis complètement d'accord avec toi et ça me faisait penser à une des valeurs du yoga, le deuxième que tu disais, la générosité. Alors, pour remettre dans le petit contexte, je suis aussi professeure de yoga à côté. Et donc, du coup, il y a 8 valeurs, en fait, dans le yoga. Et donc, dedans, il y en a une qui est vraiment le contentement, savoir se contenter de ce qu'on a. Et aussi, il y en a une sur la non-cupidité, le fait de partager, d'être dans le partage, la tolérance, etc. Et donc, ça me faisait beaucoup penser à ce que tu évoquais dans toutes tes phrases de générosité. Donc on arrive à faire le lien avec toi, c'est super. Il nous reste très peu de temps parce que tu vas avoir un live juste après, donc je voudrais que tu puisses nous partager tes derniers petits conseils. Est-ce que tu aurais 3 petits conseils, ou enfin plus ou moins, peu importe, pour aider les gens à se lancer, s'ils ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qu'ils n'osent pas aussi? Comment est-ce que tu as trouvé cette force en toi?
Honnêtement, c'est les mêmes conseils, Alexane, que pour cultiver son réseau. Moi, c'est vraiment mon mantra, c'est « learning by doing », on apprend en faisant. Et du coup, commencez dès maintenant, commencez par vous planter. Et là, j'étais en consulting avec une cliente que j'accompagne sur LinkedIn, et elle me disait « Ah, est-ce que je poste à telle heure? Comment je lance ça ?» Et en fait, je lui disais « Là, c'est, même si ce n'est pas parfait, tu l'as fait, tu as déjà fait un énorme pas parce que tu es en train d'apprendre. » Et aujourd'hui, là, si tu fais en accéléré, donc si tu testes plein de choses, tu vas gagner énormément de temps. Ce n'est pas du temps que tu as perdu, c'est du temps que tu as gagné. Donc, learning by doing, hyper important. Je pense que pour lancer son projet entrepreneurial, il y a un truc qui est important, c'est d'écouter les autres. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent tout savoir. Et aujourd'hui, dans l'exercice de l'humilité, encore une fois, c'est à savoir se remettre en question, se confronter à ses clients, pas rester campé sur ses avis, des choses préconçues, ses envies. Aussi ses avis et ses envies, tu vois, on est beaucoup comme ça, les entrepreneurs, et aussi laisser sa place à chacun, de pas, tu vois, quand tu es entrepreneur, potentiellement, tu deviens CEO, potentiellement, même si tu es un groupe de 1, tu peux prendre la grosse tête, il faut faire très attention. Ça va avec le deuxième conseil, d'écouter les avis et laisser la place aux autres, mais troisième, c'est, voilà, pas se laisser griser par les fonctions. Être CEO, c'est avant tout un exercice d'humilité et de laisser la place aux autres.
Je te rejoins complètement sur tout ça. Enfin, franchement, j'ai vraiment rien à rajouter. J'ai pris des notes en même temps pour bien me souvenir de tout ce que tu dis et pour que ça infuse bien. J'ai besoin d'écrire, en tout cas. Et du coup, je voulais vraiment te remercier. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aurais envie de faire passer dans cet épisode? Quelque chose qui te marque, peut-être une dédicace aussi. J'aime bien dire ça en fin d'épisode. Quelque chose que tu as envie de nous partager pour terminer cet épisode?
On va plus vite ensemble, plus loin. Le mantra de cet épisode.
Merci beaucoup, Caroline. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Merci beaucoup à toi, et je te laisse à ton live. Merci pour ton temps et ta confiance. Je te dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Laissez aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Bon, hâte de vous retrouver.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.